Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. Un texte que nous connaissons bien, on lira à partir du verset 27, nous connaissons bien ce texte, et tant de fois, eh bien, beaucoup au milieu de nous ont été encouragés, fortifiés par ces paroles, et bien qu'elles soient encore ce matin pour plusieurs ou tous, des paroles encourageantes, des paroles qui fortifient. Voilà, le livre du prophète Ésaïe, quand nous lisons, il y a 66 chapitres, du 1er jusqu'au 40, eh bien, Dieu rappelle à son peuple eh bien, l'éloignement, l'idolâtrie. Il rappelle, parce que Dieu est un Dieu de vérité, Dieu nous dit tout. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas humainement, mais Dieu nous le dit pour nous guérir. Dieu nous le dit pour nous délivrer, pour nous amener toujours plus près de lui. Et donc à partir du chapitre 40, nous allons jusqu'au 66, et là il y a ministère prophétique, tout le long est prophétique, mais là concernant la nouvelle Jérusalem, concernant la venue de Jésus, concernant des temps meilleurs qui allaient venir. Et c'est bon, quand nous sommes eh bien, dans une période très difficile, de savoir que Dieu veut nous conduire dans une période meilleure. Amen. C'est en réalité notre Dieu, il prend des situations inextricables et il nous amène jusqu'à devenir adorateurs de Jésus. Nous étions les uns et les autres dans le marasme, dans les ténèbres, dans la boue du péché. Il est venu nous chercher, il nous a transformés, libérés, et il nous a amenés jusqu'à être des adorateurs de Jésus en esprit et en vérité. C'est beau, c'est la meilleure position qui existe dans ce monde, c'est d'être adorateur de Jésus. La meilleure, il n'y en a pas d'autre. Meilleure d'ailleurs au ciel, je le rappelais jeudi soir, au ciel, eh bien nous serons prosternés devant le trône, nous adorerons le Seigneur, et c'est cela. Ce que nous vivons, j'allais dire, comme les arts de l'esprit, nous le vivrons pleinement. Alors ce matin, eh bien, le Seigneur veut nous toucher là où nous sommes et nous amener à réaliser qui il est vraiment et réaliser eh bien, la force qui est en lui, la puissance. Alors Ésaïe chapitre 40, verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob ?» Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Je crois qu'il y a assez de matière pour réfléchir, pour se méditer, pour entrer en nous-mêmes et recevoir de la part de Dieu. Nous pouvons nous débattre comme nous voulons, il n'y a rien qui changera. Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Il n'y a que Dieu qui peut transformer. Nous pouvons essayer, nous pouvons avoir de bonnes résolutions, mais celui qui change le cœur, il n'y a que Dieu. Et nous l'avons entendu ce matin, eh bien, il n'y a que lui qui peut donner un cœur nouveau, qui peut faire résider l'esprit du Dieu vivant en nous. Alors le peuple de Dieu vivait un présent très difficile, et souvent dans l'Ancien Testament, nous nous apercevons que le peuple a été dans l'éloignement de Dieu, dans l'idolâtrie et dans le jugement qui était comme conséquence de cet éloignement. Mais dans les circonstances difficiles, Dieu n'a jamais abandonné complètement son peuple. Dieu lui a toujours envoyé un prophète, Dieu a toujours envoyé la parole pour qu'il puisse être attentif. Donc un présent difficile, douloureux, les ennemis étaient là, l'idolâtrie, le péché, la crainte, tout cela engendrait, eh bien, le doute, la fatigue, le désespoir. Finalement, des questions qui étaient dans leur cœur, eh bien, se sont fait jour. Et le prophète va répondre, « Pourquoi dis-tu Israël ? Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Le peuple croyait bien sûr que Dieu était le créateur de toutes choses, qu'il avait créé, et le prophète le rappelle, Dieu a tout créé. Et quand on voit la puissance qui est manifestée déjà dans la création, on se dit, mais notre Dieu est grand. Il est tellement grand que ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre imagination même, la grandeur de notre Dieu. Mais le peuple, s'il savait que Dieu était créateur, il y avait des doutes maintenant quant à sa préoccupation pour eux. Et ça peut toucher les uns et les autres au milieu de nous. Nous croyons dans le Dieu créateur, nous croyons que Dieu est celui qui a tout créé, même qu'il nous a créé, mais parfois, dans l'épreuve, quand elle dure, nous pouvons dire, mais est-ce que Dieu se soucie encore de moi? Et c'était la question qui était dans le cœur de ce peuple de Jacob, ce peuple d'Israël. Il se posait la question, oui, nous croyons que Dieu a tout créé, mais est-ce qu'il se préoccupe de moi? Et nous pouvons dire avec assurance que Dieu ne nous a jamais oubliés. D'ailleurs, dans le même livre d'Ésaïe, je crois que c'est au chapitre 49, il dit « Mais quand bien même une mère oublierait l'enfant qu'elle allaite, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. » Quelle grâce de savoir que non seulement Dieu a la puissance pour créer les choses visibles et invisibles, Dieu les a créées, mais Dieu a la puissance aussi d'agir dans notre vie. Et la parole, elle devrait être suffisante. La parole de Dieu devrait être suffisante parce qu'elle nous révèle qui est Dieu. Et quand on sait qui est Dieu, eh bien la foi va jaillir dans notre cœur. Si on sait que Dieu a créé tout l'univers, n'a-t-il pas la puissance de nous relever, de nous fortifier, de nous délivrer? C'est ce Dieu d'éternité, c'est notre Père céleste que nous adorons et que nous louons. L'état de leur cœur, eh bien, avait fait Dieu comme un homme. Il ne fait aucun cas de nous, il m'oublie. Ma cause ne l'intéresse pas. C'est ce que le peuple se disait. L'état moral et spirituel était complètement faussé. La vision qu'ils avaient de Dieu était faussée. Et de l'environnement, tout était faussé. Vous savez, nous, ce qui est prépondérant, primordial, le plus important, c'est la révélation que nous avons de Christ, de Dieu. Qui est-il et qui est-il pour moi? Si nous réalisons qui il est, nous réaliserons aussi, eh bien, tout ce qu'il a pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Mais les difficultés, les épreuves, la fatigue, le découragement fait qu'il n'y voyait plus très clair, il ne voyait plus clair au sujet de Dieu lui-même, leur état moral et spirituel complètement faussé. Ésaïe rétablit les choses. Non, Dieu ne se fatigue point, il ne se lasse point comme les hommes. Alors si la vision spirituelle n'est pas bonne, tout le reste est déformé. Vous savez, on n'a pas besoin de grand-chose pour édifier notre foi, pour que nous puissions marcher avec la force de Dieu, pour que nous puissions avoir cette joie dans notre cœur, cet épanouissement. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est tout. Si nous la croyons, eh bien Dieu agit dans notre vie. Comme nous l'avons entendu hier, le pasteur disait que croire, c'est recevoir. Si nous ne recevons pas, ça veut dire que nous ne croyons pas. C'est ce qu'il a dit en substance, et la réalité c'est cela. La foi, eh bien, c'est celle qui reçoit de la part de Dieu. Celle qui reçoit. Eh bien, peut-être les épreuves, les difficultés, la souffrance qui dure depuis longtemps a quelque peu voilé la face de Dieu dans notre cœur. Et Jésus en parle. Il dira dans Matthieu au chapitre 6, verset 22, « L'œil est la lampe du corps. » Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes tes ténèbres. Une bonne vision de Dieu, que rien ne vienne voiler sa face dans notre vie, que rien ne vienne déformer qui il est en réalité, parce que de cela dépendra notre vie tout entière, notre vie spirituelle et notre vie tout court aussi. Si nous réalisons qui il est, la puissance qu'il a, l'amour qu'il a, les compassions, si nous réalisons cela, eh bien, il n'y a aucun problème pour que nous puissions vivre une vie dans la paix, dans la joie, dans l'encouragement, dans l'épanouissement. Oui, nous n'avons pas besoin d'une grande armée, n'avons pas besoin de grandes conférences, nous n'avons pas besoin de prédicateurs extraordinaires, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et ça, c'est à la portée de tous, à la portée d'un enfant au milieu de nous. S'il croit les promesses de Dieu, s'il croit qui est Dieu en réalité, eh bien, il va recevoir de lui ce qu'il a promis. Dieu nous a fait des promesses et il est fidèle pour les accomplir. Il est fidèle. Alors, on complique tellement les choses. Aujourd'hui, on a besoin de ceci, de cela. Si on a un problème, c'est de la faute d'un tel, de la faute d'un tel. Non, Dieu nous dit, viens tel que tu es dans ma présence. Viens tout seul, viens là. Et Dieu est capable de nous restaurer, de nous renouveler. La vision de Dieu était faussée. Tout le reste était faussé. Même la vision des autres, projette à l'extérieur souvent ce qu'il y a dans notre cœur. Ésaïe, qui arrive avec une vision juste de Dieu, va souligner la puissance, la gloire, le Dieu de la création. Tout est à sa place, l'univers tout entier, tout est à sa place. Vous savez que Dieu n'oublie rien, même pas la moindre petite étoile. Petite entre guillemets, hein, je ne sais pas, je n'ai jamais vu de près. Mais en tous les cas, Dieu n'oublie rien. Dans l'univers, tout fonctionne. Tout fonctionne bien. C'est extraordinaire, on se dit, mais le moindre dérèglement, et c'est fini pour tout. Mais tout fonctionne bien. La main de Dieu a tout créé, et notre Dieu ne se trompe jamais. Alors si dans l'univers tout entier, tout fonctionne bien, Dieu veut que dans nos vies aussi, il y ait de l'harmonie. Parce que c'est Dieu qui nous maintiendra, c'est lui qui nous conduira. Dieu se soucie de sa création. Il soutient toute chose par sa parole toute puissante. À plus forte raison, Dieu va se soucier de sa créature, de son peuple, de ses enfants, de chacun d'entre nous. Il n'oublie personne. Vous savez, ce matin, simplement, si on ajoute foi à ses paroles, à la parole de Dieu, on sort de ce lieu complètement changé. Vous savez, on n'a pas besoin d'une thérapie qui va durer un an, deux ans, trois ans. Non, la foi permet à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a tout dans ses mains, toute autorité, de changer notre cœur maintenant. On n'a pas besoin d'attendre, oui, mais bon, si le frère savait, Dieu sait. Moi, même si je sais, qu'est-ce que je vais changer? Moi, je peux faire juste, le perroquet, entre guillemets, je répète ce que Ésaïe a dit. Je répète ce que Dieu dit, mais nous recevons la parole et la parole agit puissamment en nous. Vous vous rendez compte que la parole de Dieu, c'est par la parole que Dieu a tout créé. Au commencement était la parole. Et à partir de ce que Dieu a dit, tout est venu à l'existence. On ne peut sonder son intelligence. Alors celui qui a tout créé, et qui soutient toute chose, est capable de donner de la force à celui qui est fatigué, et il le fait. Et il le fait. Dieu ne nous a pas sauvés en nous disant, maintenant, vous avez été sauvés il y a 30 ans, débrouillez-vous sur le chemin, si vous avez un bon caractère, de la persévérance, vous réussirez, sinon non. Ça, c'est pas notre Dieu. Dieu nous a sauvés, non pas pour nous laisser mourir en cours de route, mais Dieu nous a sauvés, et en même temps, il nous soutient. En même temps, il nous renouvelle. En même temps, il nous fortifie. En même temps, il nous délivre. En même temps, il nous dit, attention, là, ça va pas. Reviens. C'est notre Dieu, c'est un Père. Un Père qui aime ses enfants. La route avec le Seigneur est souvent longue. Je ne sais pas combien d'années ça fait que vous marchez avec le Seigneur. Moi, ça va faire 38 ans que je marche avec Dieu. Certains, ça fait plus, d'autres moins. Mais la route est longue. Ah oui, La route, certains ont marché et marchent encore depuis 50 ans, 60 ans avec le Seigneur. Au fond, j'en vois qui marchent depuis 70 ans, 75 ans avec le Seigneur. La route est longue. Et pendant la route, il y a bien des choses qui s'accumulent. Vous savez, il y a des épreuves, il y a des difficultés, des contrariétés, des soucis, de la maladie. Il y a des choses qui s'accumulent pendant la route. Et quand elle est longue, il y a des choses. Et si on n'est pas renouvelé, ces choses que nous accumulons, elles vont nous étouffer. Donc nous avons besoin de revenir à Dieu et de dire, Seigneur, voilà, moi je ne veux pas me laisser accaparer par tout ce qui peut s'ajouter. Je veux un cœur libre, je veux un cœur ouvert, je veux un cœur dans lequel tu peux agir chaque jour, Seigneur. La route, elle est souvent longue, causée et des choses... S'ajoute la fatigue, le découragement, le désespoir, etc. Et la négligence peut amener ces choses, le péché, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les soucis, peut-être les combats intenses, toutes ces choses ajoutées nous épuisent et nous fatiguent. Mais Dieu a prévu cela. Vous savez, avec le Seigneur, c'est quand on est au bout que souvent il peut agir. Parce que tant qu'il y a de la force humaine en nous, on va essayer de se débrouiller. Mais quand on n'en peut plus, quand on est là et on dit « Seigneur, voilà, moi, il y a trop », eh bien le Seigneur, il dit « Maintenant, je peux agir ». Mais tant qu'on veut se débrouiller, et nous avons des exemples, bien sûr, dans la parole, il y en a beaucoup, on les cite souvent, mais Gédéon, on dira « fatigué, mais poursuivant toujours », Élie, qui était fatigué, qui était désespéré, mais Dieu ne l'a pas abandonné, il l'a béni, il l'a relevé, il l'a fortifié, il dit « Mais mange, parce que la route, elle est longue ». Et il a pu marcher 40 jours et 40 nuits. Jérémie était tellement découragé. Vous savez, nous on lit les textes comme ça, des fois on prend ce qui nous intéresse quelquefois, mais quand on lit tout le contexte, on se dit, mais Jérémie, quel ministère il a eu, mais si on demande à quelqu'un, est-ce que vous voulez le ministère de Jérémie, mais il part en courant. Jérémie, à tel point, il dit, mais moi je ne veux même plus parler de Dieu. Vous vous rendez compte, pour un prophète, il dit, j'en suis arrivé à ne plus vouloir parler de Dieu parce que il y a de la résistance, de l'opposition. Il dit, mais je veux même plus en faire mention. Ça devait être dur, hein. Et il dit, mais je peux pas. Il y a en moi comme un feu qui est là, qui me brûle et je peux pas le contenir. Mais bien sûr, quand on a reçu la parole, on ne peut pas la contenir. Il peut y avoir des choses qui nous attristent, mais on ne peut pas contenir cette parole. Je ne puis la contenir. Il a été, et puis il dira lui-même, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Qu'est-ce qu'on repasse dans notre cœur? Jérémie dit, stop, l'absinthe et le poison, je ne peux plus. Ce que je veux repasser maintenant, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur, les promesses de Dieu, elles se renouvellent. Pierre, complètement découragé aussi, dans la désillusion totale, et tant d'autres, le Seigneur ira, mais vous savez, il va toucher individuellement, personnellement. Ce n'est pas dans un but collectif, quand quelqu'un traverse ses difficultés, eh bien, chercher le Seigneur tout seul. Voilà, on se réunit, bien sûr, on loue le Seigneur, mais à la maison, cherchez-le en temps et hors de temps, tout seul, seul devant Dieu, avec sa parole. Et Dieu va parler à notre cœur et nous allons recevoir le secours et la grâce de sa part. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés à leur état, mais il est allé les rencontrer, leur porter, leur donner de la force et du courage. Quelle sollicitude de la part de Dieu, quelle tendresse de la part de notre Dieu. C'est peut-être notre cas ce matin, nous, les mois, les années de marche avec le Seigneur, et c'est peut-être, ça a laissé des traces. Les soucis ont usé, les autres peut-être nous ont déçus. Mais Dieu veut nous encourager, nous restaurer, nous renouveler. Renouveler notre communion avec lui, pour qu'il puisse déverser à nouveau l'amour de Dieu. Seul, juste moi et ma Bible, et le Seigneur, seul avec lui, renouvelé. L'amour de Dieu renouvelé dans notre cœur. On attend que l'amour vienne des autres, mais l'amour vient de Dieu. Et il est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Si j'attends que mes frères, mes sœurs m'aiment comme je le veux, tout ça, mais on ne connaîtra jamais. Mais l'amour de Dieu, il est surnaturel, il vient du Saint-Esprit. Il est déversé dans notre cœur par, oui, par le Saint-Esprit. En un instant, tout seul, dans ma maison. Ben non, tant pis, moi je veux aimer mes frères, mais j'ai besoin de ton amour. Seigneur, cet amour qui vient de toi, qui n'est pas sentimental, mais l'amour qui vient de toi, Seigneur. Et Dieu le fait. Donc, renouveler notre communion avec lui. Pierre, m'aimes-tu? La question que Jésus a posée, Pierre, m'aimes-tu? Deuxième, dans notre marche et notre communion avec les autres. Mais si nous recevons l'amour de Dieu, le véritable, nous allons pouvoir aimer, marcher avec les autres, marcher avec Dieu et avoir la communion. Et également dans notre service, notre mission, notre appel, Dieu veut le faire. Dieu seul est parfait, tout-puissant, éternel, infini, mais sa création, à cause du péché, elle a été endommagée. Oui, l'homme n'était pas ce que nous sommes maintenant quand il l'a créé. L'homme était parfait dans le jardin. La communion avec Dieu, elle était parfaite dans le jardin, avant le péché, avant la désobéissance. La nature était parfaite. Les ronces et tout cela ont cru après le péché. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas de travail pénible. Mais après, il dit, ce sera la sueur de ton front. Donc, le péché a endommagé toute la création de Dieu. Et Jésus est venu pour restaurer cette création et la créature. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, il est dit que la création tout entière soupire. Elle est fatiguée. Est-ce que vous le saviez que la création tout entière est fatiguée? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais elle est fatiguée, elle soupire. Elle a envie de connaître ce qu'il y aura définitivement. Et l'apôtre Pierre dira que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que Dieu soit béni. Donc tout est sujet dépérit, toutes ces choses qui sont là. Dieu nous renouvelle dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour, dans la prière, dans l'esprit. C'est prévu. C'est pas quelque chose qu'il faut arracher à Dieu en disant, voilà, je vais prier pendant un mois, Seigneur, il faut que tu... C'est prévu par Dieu. Dieu sait que nous serons fatigués, et nous sommes, moralement, physiquement, spirituellement, il le sait. C'est pour cela qu'il a prévu, de nous renouveler, de nous fortifier. Et il le fait, que Dieu soit béni. D'ailleurs, et il le fait au fur et à mesure, chaque jour. Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour marcher avec lui d'une manière digne de l'Évangile. Jésus n'était pas étonné que les croyants se fatiguaient, se décourageaient, et il s'adressait à eux quand il leur dit, par exemple, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est intéressant, hein? Fatigué et chargé, mais il faut se décharger sur Christ, c'est par la foi. Il a prévu de nous donner son repos. Ce matin, frères et sœurs, si on le croit, si le plus petit au milieu de nous le croit, il va ressortir dégagé, vraiment dégagé, dire mais waouh, le poids qu'il y avait sur moi, tout ça c'est dégagé. Pourquoi ? Parce qu'il a cru ce que Jésus disait. Et quand Jésus le dit, il ne ment point. Il dit toujours la vérité. Et par exemple, si notre cœur est troublé, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. etc. J'ai pas tout noté. Finalement, on s'aperçoit que la cause, c'est souvent le doute et l'incrédulité. Hein. C'est cela. On a du mal à admettre qu'on ait du doute et de l'incrédulité chez le croyant, mais on en a. Vous en avez, j'en ai, de l'incrédulité, parce que si on croit, eh bien on va vivre ces choses, on reçoit. Que Dieu nous aide. Avec la parole, avec les promesses, que Dieu nous aide à y ajouter la foi. Seigneur, tu l'as dit, je le reçois maintenant. Tu l'as dit, je le reçois. Et ne permettez pas au doute de dire, oui, mais bon, ça fait tellement longtemps, stop. Tu l'as dit, je le reçois. Que Dieu soit béni. Il y a un appel à venir à lui, à croire, à expérimenter le secours divin. Voyez comment le découragement, l'épuisement moral, spirituel nous donne une vision fausse de Dieu et des paroles erronées. Mais ma destinée, mon droit, Dieu se fatigue, etc. C'est les questions qui étaient là. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Finalement, quand on est dans le manque, Dieu pourvoit. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il dit « c'est quand je suis faible que je suis fort », ça c'est une question de foi. La foi en Dieu me fait dire « je suis faible ». Humainement, je ne peux pas. Humainement, je n'y arriverai pas. Je parle de marcher avec le Seigneur. Humainement, je ne peux pas. Ça n'a pas été prévu comme ça. Ça n'a pas été prévu comme une religion. Non. Humainement, je ne peux pas. J'en peux plus. Et Paul dit « c'est quand je suis complètement faible que là, la puissance de Dieu s'accomplit ». Regardez Jésus. Qui l'est allé chercher ? Les pharisiens, eux, ils ne recevaient rien. Pourquoi ? Est-ce qu'ils croyaient en Dieu, les pharisiens ? Ben oui, ils croyaient en Dieu, ils connaissaient la loi, mais ils étaient remplis d'eux-mêmes. Et Dieu ne peut pas travailler. Jésus est allé chercher les estropiés, les malheureux, les paralytiques, les lépreux, ceux qui étaient dans des cas désespérés en disant « je ne peux rien, je ne peux rien faire ». Et cet homme au bord de la piscine de Bethesda dit « mais je n'ai personne, je ne peux pas, et quand j'essaie d'y aller, quelqu'un y va avant moi ». Jésus, c'est à lui qu'il s'est intéressé. Vous voyez, cette pauvre veuve qui amenait son fils unique en terre, Jésus s'est intéressé à elle. Voilà, non pas que Dieu n'aime pas toute l'humanité, Dieu aime toute l'humanité, mais il voit dans le cœur de qui il va pouvoir agir. Et si on est rempli de nous, si on dit « je sais, je connais, ça fait tellement, oui, oui, moi je sais, eh bien Dieu ne peut pas. Mais si on lui dit « Seigneur, je manque, je m'aperçois que j'ai pas, je peux proclamer, mais j'ai pas Seigneur », Dieu va venir et il va agir. Vous voyez, dans le psaume 84, verset 8, « leur force augmente pendant la marche, leur force augmente, pendant cette longue marche, leur force augmente ». Dans le psaume 110, verset 7, il est dit « il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête ». Nous savons de quel torrent il s'agit. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Pourquoi ? Pourquoi les adolescents se fatiguent ? Eh bien, il y a un propre chez les enfants, les jeunes, ils veulent tout de suite. Non ? Ceux qui ont des enfants. Ah, je veux. Quand ? Maintenant. Mais patiente. Ah non, c'est trop long. Il se fatigue. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu de l'instantané. Hein. Je ne parle pas de délivrance démoniaque, tout ça, où ça se fait instantanément. Je parle de la marche avec lui, ça se fait dans le temps, jour après jour. Jour après jour, Dieu nous donne notre pain quotidien, jour après jour, le pain de la parole, jour après jour, ce qu'il nous faut. Et il faut du temps. Dieu fait des choses profondes, il les fait durables. Et il lui faut du temps pour agir en nous. S'il agissait d'un coup, il nous briserait. Il y a bien des choses dont on n'a pas compris, il nous briserait. Mais Dieu prend le temps au fur et à mesure. Jésus dira, ce que je vous dis, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez bientôt. Vous le comprendrez bientôt. Dieu fait au fur et à mesure de notre compréhension, de notre marche, il agit. Quelle délicatesse! Quelle délicatesse! S'il nous donnait tout d'un coup, on serait peut-être foudroyés par terre. Les adolescents, tout de suite, ils n'obtiennent pas, ils se lassent. Dieu fait une œuvre profonde, durable, comme je l'ai dit, ça prend du temps. C'est chaque jour, on réfléchit, on prie, on médite, on se tient devant lui, on agit, on jeûne. Oui, c'est un tête-à-tête, une communion, c'est un renouvellement personnel. On peut imaginer même les circonstances les plus difficiles, les autres, la famille, mais Dieu s'adresse à ton cœur personnellement. Oui, mais les autres. Vous savez, un jour, c'est Pierre qui dit, mais et à ce disciple-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais occupe-toi de toi. Oui, mais les autres, occupe-toi de toi, moi je suis venu pour toi. Dieu veut nous rencontrer personnellement. Il veut que nous puissions le célébrer collectivement. Voilà, il veut nous rencontrer, il veut agir. Dieu est un Dieu précis. Il agit dans mon cœur différemment de dans un cœur parce que c'est peut-être pas les mêmes problématiques et Dieu agit en fonction et en conséquence. Alors je vais aller un petit peu plus vite. Donc un tête-à-tête veut nous encourager, nous renouveler, nous fortifier, te fortifier, toi, qui te poses peut-être la question. Toi, Dieu veut te fortifier. Ceux qui se confient en l'Éternel, comment sont-ils, ceux qui se confient en l'Éternel? L'Éternel renouvelle leur force, ils prennent leur vol comme l'aigle, les aigles. Celui qui fait confiance à l'Éternel, il est comme un aigle. Ah, il y a tellement de choses à dire sur l'aigle, il faudrait prédication que sur ça. L'image, Dieu prend des images comme cela, d'animaux, de la nature, Dieu prend des... Mais l'aigle, il y a bien des enseignements sur l'aigle. Hein. Il est le symbole de la victoire. Il est celui qui persévère, il est celui qui a une vue perçante, il est celui qui fait son nid dans les hauteurs, il est celui qui voit de loin, il est celui qui ne se laisse pas abattre par les tempêtes, il est celui qui utilise les vents contraires. Vous savez, quand les vents en bas déchirent, déracinent même les arbres, eh bien l'aigle utilise ces vents pour lui. Au lieu qu'ils viennent contre, il les utilise. Ça nous parle, tout ça, bien sûr, des circonstances, de l'adversité. Bon, il y a bien des enseignements. Et Dieu prend souvent cette image de l'aigle, même en parlant de lui, dans Exode chapitre 19, verset 4, il est dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle. » Et avancez vers moi. Comment je vous ai porté. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 11, il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, etc. L'aigle, la force, la persévérance, les hauteurs. Il y a, dans la tempête, comme je l'ai dit, quand il commence à vieillir, l'aigle, il y a un processus, quelque chose qui se passe. Bon, bien sûr, c'est une créature de Dieu. Hein. Il y a quelque chose qui se passe quand il commence à vieillir. Il n'est plus aussi alerte. Même dans ses plumes, dans ses ailes, il y a du bruit qui se fait. Et les proies potentielles, elles sont alertées. Vous voyez comment c'est. Et à un moment donné, il y a le plumage qui s'en va, et un plumage nouveau qui arrive. Le bec, il n'est plus aussi cassant, perçant, incisif, et donc il va taper son bec contre les rochers, et un autre bec va naître. C'est beau. Et vous savez que l'aigle peut vivre 80 ans. C'est étonnant, enfin, j'ai lu ça rapidement, mais 80 ans. Mais à un moment donné, il sent que ça vieillit. Et il rajeunit. Dieu lui donne une seconde jeunesse. Que Dieu nous la donne aussi du point de vue spirituel. Hein. Spirituel, une seconde jeunesse, une fraîcheur. Quelque chose qui nous permet eh bien, de dire non, je ne veux pas être toujours... Non, une seconde jeunesse spirituelle que je puisse continuer à servir le Seigneur. Et dans notre texte, il y a des choses qui nous paraissent ne pas être dans l'ordre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand nous lisons le verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol. » D'abord comme l'aigle, il court et ne se lasse point, et ensuite il marche et ne se fatigue point. Moi j'aurais pris le truc inverse. J'aurais dit il marche d'abord, il court, et puis après il prend l'envol. Non ? Ça serait plus logique. Mais quand on regarde l'histoire de notre salut, quand on va dans Éphésiens au chapitre 2, je crois, hein, je vais vérifier, ouais, c'est ça. Il est dit que quand on se convertit, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, quand nos péchés sont pardonnés, quand on est devenu une nouvelle créature, eh bien on est assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, sur les hauteurs. Et même l'Épître aux Éphésiens nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Mais c'est extraordinaire ça. D'abord, on est sur les hauteurs, mais c'est intéressant d'être sur les hauteurs, spirituellement. Parce qu'en bas, il y a toujours du remous. Il y a toujours des choses, mais sur les hauteurs, sur les hauteurs. Donc, nous sommes assis avec Christ. Ce matin, mon frère, réalise que tu es assis, ma sœur, avec Christ dans les lieux célestes. Et à cet endroit-là, qui y a dans les lieux célestes? Il y a Christ. Hein, et on est avec, à la droite de Dieu avec Christ. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour chacun de nous. Nous sommes bénis en lui. Dans les lieux célestes, dans les hauteurs, nous sommes bénis en Christ. Vous voyez, des fois, on se plaint, on n'arrête pas. Mais réalisons, par la foi, où nous sommes assis, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, assis avec Christ. Et il y a un petit cœur qui dit, assis avec Christ dans les lieux célestes, nous voyons l'ennemi qui est battu en bas. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Ensuite, eh bien, nous sommes dans Hébreux chapitre 12 et verset 1er, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Nous pouvons courir avec persévérance parce que eh bien, Christ, c'est le rémunérateur de notre foi. C'est celui qui est le chef de notre foi, il est le chef de l'Église, il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et quand nous avons les yeux fixés sur lui, on fait des choses qu'on ne pourrait pas faire normalement. Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent plus courir là? Levez la main. Oh, il n'y en a pas beaucoup, alors. Mais j'en vois pas beaucoup courir aussi. Hein. Eh bien, la Bible nous parle de courir dans la carrière qui nous est ouverte. On fait des choses qu'on ne ferait pas normalement. Je ne parle pas, bien sûr, sur le plan physique, vous m'avez compris, mais sur le plan spirituel. Il y a des choses qui nous étonnent, qui nous émerveillent, que Dieu est capable de faire. Et ensuite, il y a la marche. La marche, et nous l'avons dans Colossiens 2:6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alors il y a la marche, et c'est là où, dans la marche, nous avons besoin de persévérance. Alors l'exemple de l'Ancien Testament, c'est Enoch. Vous savez combien de temps il a marché avec Dieu sur la terre? Combien? Non, pas 15 ans, non. Ah! Il a marché 300 ans, il s'est tourné vers Dieu à l'âge de 65 ans, il a vécu 365 ans, mais il a marché 300 ans avec Dieu. C'est long, hein, 300 ans. Peut-être que ce n'était pas la même chose à l'époque, mais 300 ans il a marché avec Dieu. Et vous savez pourquoi il a pu marcher pendant 300 ans? Parce qu'il avait une communion, et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, eh bien que Enoch, avant que le Seigneur le prenne, parce qu'il n'a pas connu la mort Enoch, hein, on aimerait mourir comme ça, non? Sans souffrance, rien. Dieu l'a pris. Mais avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Waouh! agréable à Dieu. Sa vie lui était agréable. Sa marche, était-il parfait, Enoch ? Non, mais il avait la foi, et si nous avons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Enoch a été agréable à Dieu. 300 ans, marcher longtemps avec le Seigneur. Si on n'a pas la foi, on termine aigri, on termine dans l'amertume, on termine... Mais avec la foi, Dieu renouvelle chaque jour. Et Enoch a pu marcher ces 300 ans, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant 300 ans, mais enfin, en tous les cas, la Bible nous dit qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit, et il avait obtenu un témoignage, il avait été agréable à Dieu dans son témoignage. Pour cette marche longue et difficile, nous avons besoin d'un renouvellement quotidien, renouvellement de nos forces morales et spirituelles, renouvellement de la foi, renouvellement de l'amour. C'est prévu, comme l'aigle à un moment, il rajeunit. Il est comme brisé, l'aigle à un moment, il est comme brisé. Mais d'un coup, eh bien, on sent que voilà, il repart dans les airs, il est changé. Et nous aussi, nous venons devant le Seigneur parfois. Nous sommes brisés, nous pleurons devant le Seigneur, nous disons « Seigneur, je suis un misérable ». Vous voyez, aujourd'hui, les pleurs, la repentance, ça manque cruellement. Qui nous sommes pour bomber le torse ? Mais qui nous sommes ? Devant le Seigneur, nous sommes rien et pourtant il nous aime. Et nous voulons nous tenir devant lui en disant « Seigneur, combien j'ai encore besoin de ta grâce ?» Combien je suis, mais des fois, mais ça c'est personnel, c'est seul, avec Dieu. Il faut passer du temps, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps avec le Seigneur et l'Esprit de Dieu nous montrer. Et nous ressortons fortifiés, dégagés, nous ressortons en disant, ah Seigneur, j'ai envie de parler de toi, parce que Dieu nous a visités et il nous a fait du bien. Souvenons-nous. L'épuisement, la fatigue, le découragement amènent des mauvaises visions, mauvaises pensées, mauvaises paroles, les circonstances, les autres. L'œil doit être en bon état. Que Dieu pose sa main sur chacun d'entre nous. En cette rentrée, nous avons besoin de lui, de sa grâce, nous avons besoin de forces nouvelles, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit, du collyre divin, pour que nous puissions voir Christ comme il est et... Personnellement, chacun, nous avons besoin d'être fortifiés dans le Seigneur. Chacun en particulier, et l'Église en sera fortifiée. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, pour ta sollicitude à notre égard, pour tes tendres soins, pour ta miséricorde. Seigneur, mais quel Dieu formidable tu es! Quand nous pensons à l'univers, on se sentirait mais complètement écrasé, oublié, un grain de poussière. Mais non, Seigneur, tu nous as gravés sur tes mains, à la croix du calvaire. Tu nous as gravés, tu ne nous oublies pas. Tu nous as créés, tu nous as sauvés, tu nous as renouvelés. Et tu veux nous restaurer, tu veux nous renouveler chaque jour. Oui, tes bontés se renouvellent à notre égard chaque matin. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur. Nous te louons, renouvelle-moi, renouvelle chacun d'entre nous, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Fais cette œuvre dans nos cœurs. Fais cette œuvre par le Saint-Esprit. Seigneur, que l'humain disparaisse de plus en plus et que le divin paraisse, que Jésus paraisse dans nos vies et au milieu de nous. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va rester juste quelques instants dans le recueillement parce que je suis persuadé que beaucoup au milieu de nous ont besoin ce matin. Nous prions les uns pour les autres.